Très bon réveil à tous. Voici le journal de Catherine Dutube. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il veut aller vite pour en finir avec la crise des gilets jaunes. Emmanuel Macron doit finaliser et clarifier avec les membres du gouvernement les contours de la grande concertation nationale qu'il a promise aux gilets jaunes. Consultation qui finira le 1er mars prochain.
Et puis une réunion ce soir à l'Élysée où il sera notamment en question, Catherine, du référendum d'initiative citoyenne.
Casse-tête politique, casse-tête technique aussi, tout comme verser une prime de 100 euros pour compléter le SMIC et les petits salaires. Sueur froide chez les agents de la CAF, vous l'entendrez. À la une encore, 4 ONG décident de porter plainte contre l'État pour carence fautive face au réchauffement climatique et RSF dresse un constat alarmant pour les journalistes à travers le monde. Les violences à l'encontre de ces professionnels n'ont jamais atteint de tels niveaux dans les dictatures, mais aussi dans des pays démocratiques.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, les arrestations constituent-elles une nouvelle arme dans la guerre économique? On posera la question à Yves Nouvel, il est professeur de droit international à l'université de Paris 2, Panthéon Assas.
Son agenda n'en finit pas d'être bousculé. Emmanuel Macron annule un déplacement prévu aujourd'hui à Biarritz pour lancer la présidence française du G7 en août prochain. Le chef de l'État, plombé dans les sondages, préfère rester à Paris pour dessiner les contours de la grande concertation nationale qu'il a promise aux gilets jaunes ou comment tenter de sortir de la crise en tenant compte des aspirations des manifestants. Réunion à l'Élysée ce soir avec les ministres concernés où il sera notamment question de l'idée de référendum d'initiative citoyenne, revendication de certains gilets jaunes, un sujet de débat, selon le Premier ministre Édouard Philippe. Finaliser et clarifier les règles de cette grande concertation nationale, avant d'en dévoiler les modalités d'ici jeudi, Anne Fauquemberg.
C'est la date dont dispose en tout cas la Commission nationale du débat public ce matin, commission présidée par Chantal Jouanneau, l'ancienne ministre des Sports, qui est toujours en pleine préparation pour ce débat national qu'Emmanuel Macron veut ambitieux. Des échanges bien souvent téléphoniques, vu les délais serrés. Après avoir parlé donc avec les représentants des syndicats, des partis politiques, les associations d'élus comme celle des maires ruraux, initiateurs de la consultation, mais aussi des organisations plus sociales comme la Fondation Abbé Pierre ou les Restos du Cœur. À partir d'aujourd'hui, l'ex-sénatrice entre dans le vif du sujet. Elle va se mettre en contact avec une dizaine de représentants de Gilets jaunes. Et d'ici jeudi, elle parlera aussi au patronat, notamment la Confédération des petites et moyennes entreprises. En parallèle, la commission du débat public s'organise. La consultation devrait prendre deux formes. L'une via un site internet dédié en cours de construction. Et puis les citoyens qui le souhaitent pourront demander à recevoir du matériel pour organiser des stands pour débattre dans leur quartier. Des citoyens qui pourront s'exprimer ces prochaines semaines sur quatre grands thèmes. La transition écologique, la fiscalité, les services publics et le débat démocratique.
La présidente de la commission du débat public, Chantal Jouanneau, devrait recevoir des moyens supplémentaires dans les semaines à venir et être épaulé par un collège de garants avec des personnalités reconnues. On parle notamment du défenseur des droits, Jacques Toubon. Cette grande concertation nationale doit se tenir jusqu'au 1er mars dans toute la France, avec peut-être en débat donc le référendum d'initiative citoyenne ou populaire. Sur cette question, quels modèles étrangers inspirent les gilets jaunes? C'est un dossier à retrouver en une sur franceculture.fr. C'est par la voie d'un autre référendum, celui d'initiative partagée, institué en 2008 par Nicolas Sarkozy, que le Parti Socialiste entend défier l'exécutif. En proposant de supprimer l'ISF, c'est une information de nos confrères de France Inter, le processus doit être lancé cet après-midi à l'Assemblée nationale. Les socialistes surfent sur la colère des gilets jaunes, entendant donc de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune en utilisant le référendum d'initiative partagée. Le PS se lance dans un parcours du combattant législatif, proposition de loi déposée par au moins un cinquième des parlementaires après validation du Conseil constitutionnel. Il faut obtenir le soutien d'un dixième du corps électoral, soit près de 5 millions de personnes. Arrêtons-nous à présent sur d'autres questions techniques, mais cette fois sur le plan économique. Le gouvernement réussira-t-il à tenir la date du 5 février prochain pour régler la prime de 100 euros versée en complément du SMIC et des petits salaires? La question inquiète au sein des caisses d'allocations familiales qui gèrent et versent la prime d'activité, Claire Chaudière.
Au premier abord, la mesure peut paraître évidente à mettre en œuvre, verser 100 euros en plus à tous les bénéficiaires de la prime d'activité. Mais en réalité, le casse-tête est bien là. Il faut obligatoirement, préviennent tous les connaisseurs de ce type de mesure, une adaptation du logiciel de calcul sur les rails pour courant janvier, acquiesce un directeur de caisse d'allocation familiale, plutôt optimiste, assurant que les choses vont vite, très vite depuis quelques jours. Sauf que là où la situation est déjà totalement engorgée, il va falloir être patient, prévient Audrey Granier, coordinatrice du réseau CAF pour la CGT.
Marseille, la CAF du Nord qui ont beaucoup de retard. Pour eux, c'est certain que c'est pas possible.
Sans compter que le bonus de 100 euros pour l'ensemble des petits salaires déjà concernés n'a rien à voir avec la dégressivité du système actuel et que ce coup de pouce doit toucher plus d'un million de personnes en plus, dont certaines aujourd'hui inconnues des CAF.
Je vois pas comment ça va être calculé. Pour le moment, le système informatique il calcule pas de cette façon-là. Là, on est déjà le 17 décembre. C'est impossible que le système informatique soit remis à jour et que le calcul puisse être fait le mois prochain.
À titre de comparaison, des adaptations de logiciels plus légères peuvent prendre environ 6 mois, ajoute cette salariée. À circonstances exceptionnelles, vitesse exceptionnelle, répond une direction de CAF. Le compte à rebours est lancé.
Un casse-tête technique également au niveau des caisses de retraite qui doivent exonérer de la hausse de la CSG, ce qui touche moins de 2000 euros de pension par mois. Le gouvernement leur laisse du temps pour s'adapter. Les retraités concernés devront donc payer la CSG augmentée au plus tard jusqu'en juillet prochain. Ils seront ensuite remboursés. C'est ce qu'a indiqué hier la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Après les gilets jaunes, voici les giros bleus. L'expression sert de mot-clé sur Internet pour fédérer les policiers, très sollicités ces derniers temps par les manifestations en tout genre, par l'attentat de Strasbourg aussi. La fatigue des forces de l'ordre se mue en colère. Plusieurs syndicats de policiers appellent à des manifestations sous différentes formes pour exiger de meilleures conditions de travail et le paiement des heures supplémentaires. L'UNSA Police lance une opération service minimum dès aujourd'hui. L'enquête sur l'attentat de Strasbourg progresse avec la mise en examen hier d'un proche de Chérif Chekat. L'assaillant abattu jeudi au terme d'une traque de 2 jours. Le mis en examen, un homme de 37 ans, a été placé en détention provisoire. Il est notamment soupçonné d'avoir fourni un revolver au terroriste.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu dans les matins. Elle l'appelle très modestement l'affaire du siècle parce que si l'on n'agit pas maintenant, à la fin du siècle, le climat de la Terre va radicalement changer.
4 ONG lancent aujourd'hui un recours juridique contre l'État pour carence fautive face au réchauffement climatique. Greenpeace, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Oxfam et l'association Notre Affaire à Tous emboîtent ainsi le pas du maire de Grande-Synthe, l'écologiste Damien Carême, qui avait été le premier à porter plainte contre l'État il y a un mois. Et désormais, Anne-Laure Barral, c'est donc au tour des représentants de la société civile de passer par la case justice pour tenter d'en faire plus pour le climat.
La France a signé de nombreux textes internationaux, le protocole de Kyoto, l'accord de Paris. Elle est soumise à des directives européennes et elle a fait voter plusieurs lois, Grenelle, transition énergétique et croissance verte. Pourtant, aujourd'hui, pour Audrey Pulvar, porte-parole de la Fondation pour la Nature et l'Homme, la France ne respecte pas ces textes.
La France s'était engagée à prendre une trajectoire en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre qu'elle ne respecte pas. Pour tout ce qui est développement des énergies renouvelables, nous sommes très en deçà. La rénovation énergétique, l'objectif c'était 500 000 rénovations par an, et on est tout de 300 000. Ouais.
Pour l'instant, il s'agit de l'envoi d'une demande préalable auprès du chef de l'État et du gouvernement pour respecter ses engagements. Mais au printemps, les associations comptent sur un recours devant le tribunal administratif de Paris pour faire reconnaître le lien entre l'inaction de l'État et l'aggravation du changement climatique, comme dans d'autres affaires.
Il y a des précédents, par exemple, je pense à ce qui s'est passé pour les RICA. L'État a été condamné à réparer la nature. Et puis si l'écosystème n'est pas réparable, oui, ça peut être aussi une condamnation à une somme d'argent.
La France seule aura du mal à réparer le climat. Ce recours juridique est donc pour rejoindre une grande cause mondiale. En effet, il y a aujourd'hui près de 900 plaintes d'ONG, de villes, d'associations et même de particuliers contre leur gouvernement ou des entreprises polluantes pour inaction climatique.
Et comment dépolluer le site ArcelorMittal de Florange? Près de 3 semaines après la fin de l'accord qui le lie à l'État, le groupe ArcelorMittal a confirmé hier que les hauts fourneaux de Florange ne rouvriraient pas. La filière liquide, la production d'acier non transformé s'éteint donc. Le groupe préférant transformer le site en une unité spécialisée dans la fabrication de produits finis tournée vers l'industrie automobile. Frédéric Weber, délégué force ouvrière du site de Florange, s'interroge sur l'avenir des installations.
Maintenant, la seule question, elle est, est-ce qu'ArcelorMittal va sortir le portefeuille pour dépolluer la zone? Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, le vrai débat, c'est demain, qu'est-ce que ça va devenir? On est en centre d'Ayange, on est quand même une zone urbaine, tout autour, il y a beaucoup d'habitations. Est-ce que ça va rester comme c'est aujourd'hui à Grandrange depuis des années, où on voit cette pollution visuelle qui traîne là depuis des années, qui pourrit sur place, parce qu'un démantèlement, ça coûte dizaines, voire centaines de millions d'euros. Hein. Ça coûte pas 5 euros. Hein. Donc aujourd'hui, est-ce que le groupe ArcelorMittal, en 2018, 2019, 2020, va sortir son chéquier pour nettoyer et permettre à cette zone d'avoir un avenir différent que celui de la sidérurgie? C'est ça la vraie question. Où est-ce que ça va rester encore dans 10 ans? On observera toujours dans l'état où c'est. Ça sera toujours comme c'est là, un cimetière d'acier.
Frédéric Weber, délégué force ouvrière du site de Florange. Lui cherche à exploiter les ressources naturelles d'une gigantesque réserve indigène dans l'Amazone, à la frontière du Venezuela et de la Guyane. Le président élu du Brésil, Jair Bolsonaro, a évoqué hier le potentiel d'une réserve où vivent quelques 17 000 autochtones. Elle renferme d'importants gisements de minerais comme le niobium, un métal léger utilisé dans la sidérurgie et l'aéronautique, ainsi que la deuxième plus grande réserve d'uranium au monde. Cette réserve abrite encore d'abondantes quantités d'or, d'étain, de cuivre et de diamants. Selon les ONG, toute exploitation bouleverserait l'écosystème du fleuve Amazone et de ses affluents, forcerait aussi le déplacement des populations. On y revient dans la revue de presse internationale après le journal de 7h30. Arrêtons-nous à présent sur les violences à l'encontre des journalistes à travers le monde. Elles n'ont jamais atteint un tel niveau. C'est ce que révèle ce matin Reporters sans frontières. Tous les indicateurs sont dans le rouge, Alexandra Akoun.
63 journalistes professionnels ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions depuis le 1er janvier. Un niveau inédit après 3 ans de baisse. Résultat, selon Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières, du cumul de deux facteurs.
Le premier, c'est le fait que les journalistes sont ciblés lorsqu'ils enquêtent sur des sujets sensibles. Et des sujets considérés comme sensibles, il y en a de plus en plus. Et puis ensuite, il y a la question de l'affaiblissement des résistances dans les sociétés face aux violences contre les journalistes, notamment provoquées par des sentiments qui sont portés par des dictateurs, parfois par des responsables politiques dans des pays démocratiques, et ceux qui veulent passer à l'acte considèrent qu'ils peuvent passer de manière beaucoup plus facile qu'autrefois contre les journalistes.
L'Afghanistan détient le sinistre record du pays le plus meurtrier pour les journalistes, 30 homicides suivis de la Syrie et du Mexique. Et pour la première fois, les États-Unis entrent au classement suite à la fusillade en juin dernier à la rédaction du Capitol Gazette dans le Maryland.
L'homme qui a ouvert le feu harcelait depuis 6 ans la rédaction du journal sur Twitter. C'est une preuve supplémentaire que du harcèlement verbal, notamment sur les réseaux sociaux, de la haine colportée, il peut y avoir ensuite des passages à l'acte. Là, en l'occurrence, un attentat qui a entraîné la mort de 6 journalistes.
Le nombre de journalistes incarcérés a lui aussi augmenté, 348 contre 326 l'an passé. La Chine et la Turquie restant les plus grandes prisons au monde pour journalistes.
Le temps de ce mardi 18 décembre partagé entre grisailles, éclaircies et pluie, dégelé ce matin de la Franche-Comté à l'Alsace. Les températures sont comprises dans le reste du pays entre 2 et 6 degrés. En général, comptez jusqu'à 11 près des côtes Guillaume-Erner.